Κοίταξε να θα έρθεις. Πάμε στο νησί.
Πού?
Στο νησί. Θα βουτήξουμε να δούμε την αρχαία πόλη.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Calimera, bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Fermez les yeux, respirez, on est bien. Vous sentez la terre, l'odeur de la terre chauffée par le soleil. Levez les yeux, regardez un petit peu au loin. Vous voyez la mer? Cette terre-là, l'iode, ce sont les premières notes de goût d'une parcelle à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est la terre qui sème la différence. La terre que nous foulons aujourd'hui, ce que nous allons goûter d'elle, son fruit comme une identité depuis la nuit des temps. Calimera, Evangelia.
Calimera.
Calimera, Alessandros.
Calimera, Clémence.
Bonjour à tous les deux, d'une même famille. Alessandros, vous aviez voulu venir avec votre maman, comme une évidence.
Bah oui, au-delà de la part de filiation quelque part, c'est la part d'identité grecque que ma maman a toujours voulu conserver et de manière assez intelligente finalement en m'envoyant tous les étés chez ma grand-mère pour avoir encore cette continuité dans la culture. Donc moi je suis né en France de parents grecs. Le fait est que quelque part on a continué à avoir ce lien avec mon pays d'origine et du coup ce petit bureau que vous avez visité à rue de Savy, auquel je proposais quelques produits depuis, ça fait maintenant 6 ans que j'ai ce petit lieu, on l'a vraiment transformé en épicerie parce qu'avec la fermeture quelque part des restaurants, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un gouffre devant nous. Il a fallu être intelligent, savoir réagir. Le lieu est devenu une épicerie, mais mon travail de sourceur
n'a pas changé.
N'a pas changé et reste le même. Il est toujours de valoriser en fait des produits et des producteurs grecs en France et de faire le pont en fait entre mes deux cultures.
Ralis, c'est votre nom de famille. Ouais. On dit Rally pour les femmes,
oui.
Si j'ai bien compris. Alors là, on a parlé de la Grèce, on a déjà entendu parler des olives, mais où est-ce qu'on est? Racontez-moi un peu où est-ce qu'on est là. Qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on se trouve, Evangelia?
Donc, moi je suis originaire de Kalamata. C'est au sud-ouest du Péloponnèse, dans la région de Messinia. Et je suis partie très tôt, à 18 ans, pour faire mes études en France. Et comme disait Alexandros, je voulais garder absolument une relation avec mes parents, avec mon pays, tout en ayant vraiment adoré être en France.
Un pied ici, un pied là.
Ouais.
Et difficile et aussi de concilier ces deux identités parfois.
Très difficile. Très difficile. Puis c'est quand je suis là, j'ai envie d'être en Grèce. Et quand je suis en Grèce, la France me manque. Je pense que ça, c'est toujours le problème des migrants, en quelque sorte. Et en plus, c'était une migration volontaire, parce que j'avais vraiment envie de venir en France faire mes études.
Et votre famille était déjà dans les olives?
Alors, quelque part, c'était un regret, parce qu'il y a beaucoup de familles qui avaient de petites parcelles. Et puis, nous, on n'avait pas.
D'accord.
Parce qu'on est... moi, je suis née dans une ville.
Oui, Kalamata.
Kalamata, c'est une ville de 40 000 habitants. Oui. Donc, je suis une urbaine. Mais tout le monde autour de moi, les autres enfants, les parents, ils avaient tous une petite parcelle et ils partaient faire la récolte.
D'accord.
Et quelque chose, moi, je n'avais pas ça.
Ah, vous étiez privée de ce moment-là et de ces souvenirs-là, pour le coup.
Oui, tout à fait. Et quand j'avais 18 ans, donc je suis partie en France, j'ai fait la connaissance d'une amie qui est devenue très proche. Et ses parents, à elle, ils avaient justement une parcelle. Ce qui fait que quand on rentrait en Grèce pour Noël, on partait toujours récolter les olives. Donc, quelque part, je suis rentrée, mais pas par ma famille.
Donc, c'est un cadeau d'emblée que vous avez fait à votre fils, de lui offrir ces souvenirs-là que vous n'aviez pas vus.
J'espère, oui.
Ces souvenirs, justement, quand on récolte les olives, donc pendant l'hiver.
Alors, je crois que c'est l'un des travaux les plus harassants que j'ai connu, pour avoir fait les vendanges. Je travaillais dans le bâtiment, mais je pense que la récolte et le travail dans les oliviers est l'un des travaux les plus difficiles qui existent, mais les plus merveilleux aussi. C'est-à-dire qu'on est complètement au milieu de la nature. On ramasse tout pratiquement à la main. Enfin, il y a vraiment un travail qui est fait. Il y a un corps à corps qui s'engage avec l'olivier qui est sublime. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le processus est venu petit à petit. C'est-à-dire que maman donc, a acheté en 2004, je crois, cette petite parcelle de 40 arbres qui était toute petite. Donc, on a commencé à la travailler, à la ramasser, je crois, en 2006. Et en fait, en travaillant dedans, j'ai commencé à apprécier ce métier, les gens qui en faisaient partie. Et comme je vous l'ai dit, sur la fin de mes études, en me posant la question un hiver ce que j'allais devenir, quoi, à 25 ans, quand on est au seuil de la vie, ben, je me suis dit que la réponse était autour de moi, en fait. C'était ces oliviers qui allaient me permettre de trouver une voie professionnelle dans ma vie que j'avais envie d'accomplir, qui allaient me permettre d'avoir une excuse pour pouvoir retourner en Grèce, pour voir ma grand-mère que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais créé un lien qui était très fort. Donc, ça combinait, si vous voulez, tout ce que j'avais envie, et ça permettait finalement quelque part de ne pas travailler parce que j'allais faire quelque chose que j'aime.
Et c'était sous vos yeux, en plus.
C'est ça. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus simple, en fait, qu'on n'arrive pas à voir et qui est juste sous nos pieds, en fait. Et c'est ça qu'il faut souvent développer, en fait, cette richesse qu'on a, généralement, on néglige.
Vous avez dit, c'est un des travaux les plus difficiles que vous ayez jamais fait que de récolter les olives. J'ai l'impression que c'est un travail un peu de village. C'est pas juste un travail de récoltant, c'est un travail de famille ou ouais. C'est une image que je me fais moi.
Déjà, c'est un travail d'équipe et je pense que plus on est nombreux, donc plus ça avance et plus il y a une dynamique. C'est un travail aussi de génération, ça qui est très intéressant, de genre aussi. Tout le monde peut travailler dans les oliviers.
Chacun à sa place.
Voilà, chacun à sa place. C'est vraiment des techniques. Maman, elle peut expliquer un peu mieux, parce que dernièrement, elle a monté des équipes de récolte pour ces 400 arbres. C'est-à-dire qu'on est passé de 40
en 2006.
À 400 aujourd'hui.
Alors, 40, ça représente combien en termes de production et d'huile d'olive?
Comme je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les oliviers, ils donnent une fois sur deux.
D'accord.
Une année sur deux. Donc, on va dire en moyenne, ça fait à peu près entre 100 et 150 litres par an.
D'accord. Et ça, c'est bien, pas bien? Je m'en rends pas compte.
Ça dépend, parce que juste pour nous, 100 litres, c'est pas mal, c'est déjà bien. Mmh. Et c'était une parcelle, donc la petite parcelle où on faisait juste la taille, parce qu'en olivier, pour produire, il faut les tailler.
Donc, ce qui explique ce rythme, une année,
absolument,
une autre année.
Parce que c'est la production des olives, c'est lié avec la taille. Parce que maintenant, il y a de nouvelles techniques, par exemple, où on taille très peu l'olivier. Pour donner tous les ans.
Pour forcer un petit peu la nature à produire, du coup?
Non, pas forcément, on force pas. Mais c'est une question... En Grèce, par exemple, j'ai essayé de le faire, ça, et j'ai pas pu. Parce que c'est une question... L'arbre, il faut aussi qu'il soit aéré. Donc, quand c'est pas aéré... Donc, moi, j'avais essayé, justement, il y a 3 ans. Et mes arbres sont tombés malades.
Parce que
j'avais pas bien taillé.
Donc, c'est vraiment un savoir-faire. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les principes essentiels de la taille?
Alors, l'image, donc j'ai retrouvé le nom en fait de cette taille qui s'appelle une taille en couronne en fait, et on dit qu'il faut qu'un faucon puisse déployer ses ailes entre les arbres pour faire une taille réussie en fait. Donc le soleil doit taper en fait au milieu de l'arbre et avec une ouverture pour les branches pour pouvoir en fait traverser au milieu des branches. C'est vrai que c'est une très très belle image.
J'aime beaucoup.
En France, ils disent un pigeon.
Un pigeon. Donc, vous avez réuni cette équipe de récolte d'olives. Quand on disait tout le monde a sa place, et vous avez précisé c'est genré. Est-ce que vous pourriez m'expliquer justement comment ça fonctionne quand on est un enfant, quelle place on a et pourquoi?
Une petite précision. Pourquoi c'est très difficile comme travail? C'est aussi parce que on a absolument des objectifs de faire très vite. On peut pas dire on va à notre rythme.
Et pourquoi?
Parce qu'il faut presser les olives tous les soirs. Donc, à partir du moment qu'on doit presser, c'est très difficile d'arriver avec l'huilerie avec que 2 sacs, par exemple. Il y a un minimum de sacs parce que là-bas, il faut un minimum de 7, 8, même 9 sacs pour dire que l'huilerie va fonctionner correctement.
C'est un sac qui représente 50 kilos d'olives.
Voilà.
Donc,
oui.
Ils sont des gros sacs. Donc, il faut à peu près amener au minimum, ramasser, récolter 400 kilos dans la journée.
Ça. 400 kilos dans la journée.
Vous voyez, avec des olives qui font la taille du petit ongle ici, imaginez le travail que c'est, comme il faut aller vite. Et après, il y a vraiment un rythme à faire au niveau du travail, avec les personnes qui vont tailler les branches, les filets qui vont avancer, ceux qui vont gauler. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, un processus qui se crée, le triage des olives qui sont tombées dans les filets, dans le trieur, après les mises en sac. Il y a vraiment un travail d'équipe et un rythme à tenir qui est très très important pour pouvoir faire un travail efficace et pour pouvoir récolter en fait les olives. Donc c'est comme une guerre en fait qu'on engage dans le champ d'olivier. Et donc du coup il y a ces généraux, il y a ces lieutenants et puis il y a la logistique.
Il y a quelqu'un qui commande, c'est très important ça.
D'accord. Et alors c'est un homme, j'imagine. Je pose la question
pas
parce
que... Pas forcément, parce que on a une copine commune, Dina, c'était elle la chef,
voilà.
Qui donnait les tempos.
Ça évolue quand même, parce que ça,
oui,
c'est récent, j'imagine.
Oui, ça c'est récent.
Je
ne
sais pas pourquoi, je me dis, dans les oliveraies, ça ne doit pas être très
Et donc
courant.
C'était elle, Alexandros, il disait, mais Dina, elle va trop vite, elle va trop vite.
Donc on se lève tôt le matin.
Très tôt le matin, 7h du matin.
C'est l'hiver, donc
l'hiver,
la question de la température n'est pas un problème.
Alors à Kalamata, à 7-8 heures, il faut à peu près 10 degrés. On est sur des récoltes qui font entre 10 et 20 degrés. Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud et que c'est des récoltes qui durent de à peu près 7h, 7h30 du matin jusqu'à 17h, 18h quand le soleil se couche en fait. Donc on utilise la lumière du jour pour après travailler. Mais c'est vraiment des journées qui passent comme un éclair. C'est-à-dire que à partir du moment où on se met à s'enclencher au niveau du travail de récolte, eh ben, tout passe d'une vitesse. Mais alors là, vraiment, c'est le temps le plus court que je connaisse. Et à la fin de la journée, on se dit, tiens, la journée est finie. Il y a une espèce de bonheur en même temps et une sérénité qu'on retrouve à avoir mis son corps, en fait, face aux oliviers et s'en être sorti quelque part et une fierté du labeur.
Mais il faut savoir aussi que le fameux chef, hein, qui lui qui commande, ah ben lui il doit aller jusqu'à 10h, 11h du soir.
C'est ça, parce qu'il doit encadrer lui totalement le...
Non mais il faut qu'il amène, pas forcément lui, mais les sacs, il faut les amener à l'huilerie.
Et l'huilerie c'est...
L'huilerie c'est...
Ce sont des huileries modernes ou bien...
Mais non, la plupart en Grèce sont modernisées. Avant c'était avec des meules.
Oui, dans les moulins.
Oui, dans les moulins. Maintenant ils ont quand même un matériel...
Explique les techniques, c'est des presses avec des scrutins. En fait, il y avait la pâte était faite avec les meules, la pâte des olives. On prenait la pâte, on la mettait entre les scrutins. C'est des espèces de la jute.
De la jute, oui, c'était ça.
La jute,
ça.
En fait, qu'on mettait. Après, en fait, on pressait toute cette pâte. Le jus tombait. Dans le jus, il y avait une décantation qui se faisait entre l'eau et l'huile. Donc, l'huile qui se mettait au-dessus. Et voilà comment on obtenait l'huile d'olive. Mais ça prenait un temps qui était dingue. Et ce qui faisait qu'on n'avait pas une huile d'olive de qualité, parce que justement, la partie du temps est très importante. Pour avoir une huile d'olive vierge extra, justement, et pas avoir de problème de fermentation avec l'olive, il faut, la vitesse est très importante. Donc, du coup, en fait, il y a une montée en gamme de la qualité des huiles en Grèce par la modernisation des moulins.
Et ça, quasiment tous les moulins, maintenant, ils sont modernisés.
Voilà. Et après, le moulin va être très, très important dans sa propreté, dans la façon dont il va travailler, les machines qu'il va utiliser. En fait, l'huile d'olive est une équation avec énormément d'inconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne veut vous dire pourquoi une huile d'olive, elle est meilleure que l'autre. Il y a plein de facteurs qui jouent. Il va y avoir le millésime, l'année, comme on a dit. Il va y avoir la parcelle, les sols. Il va y avoir le travail de l'agriculteur et le moulin. Donc, toutes ces équations X réunies donnent une huile d'olive extraordinaire. Mais à chaque fois, tous les ans, on remet tout en jeu et avec un inconnu.
Les conditions climatiques.
Voilà. Qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer.
De toute façon, elles changent d'une année sur l'autre. Même sans parler du réchauffement de climat, donc ça change. Et nous, en plus, en Grèce, on a quelque chose que j'ai remarqué qu'on n'a pas en France. À Saint-Rémy, en Provence, au sud de la France où j'étais, c'est
que... Vous avez fait des études?
Oui, j'avais fait un stage...
En oléiculture.
En oléiculture, donc au lycée professionnel de l'oléiculture de Saint-Rémy, en Provence, que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vu quand même que chaque personne qui a une petite parcelle ne peut pas avoir son huile. Parce que il faut qu'il y a un maximum et qu'il mélange un peu tout. En Grèce, chaque personne, elle arrive à avoir son huile.
Et vous voyez, Clément, ce qui est extraordinaire en France quand même, alors qu'il y a une production qui est minime, qui est à peu près 3% de l'huile d'olive qui est consommée en France et française, vous avez des lycées professionnels spécialisés dans la culture de l'olivier, vous avez des routes des oliviers, vous avez une mise en valeur du terroir, vous avez une mise en valeur des artisans agricoles qui est absolument fabuleuse. La Grèce, qui est pourtant le troisième producteur mondial, n'a même pas 1% de ce que se fait en France sur le travail agricole de l'olivier. Et c'est vraiment presque un scandale quelque part de complètement nier en fait cette richesse agricole. Et c'est là en fait où ma double culture a pu jouer, c'est-à-dire qu'en voyant en France la part importante, le soin apporté à ce produit qu'est l'huile d'olive, et voir comment il est dénigré en Grèce et comment il est traité, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, il faut savoir que 70% de l'huile d'olive grecque est vendue en vrac en Italie ou en Espagne dans des camions-citernes. Quand je voyais la façon dont il était nié commercialement et la perte de richesse qui en découlait derrière pour les artisans, moi je trouvais ça absolument scandaleux et je trouvais que c'était même un exemple qui montrait pourquoi la crise grecque économique, on voit quoi, c'est-à-dire que quand on a des trésors devant soi et qu'on est incapable de les exploiter et de les mettre en valeur, eh ben on a un pays qui va à va de l'eau et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, heureusement, ça change. Il y a des gens qui prennent des choses en main. La valeur de l'artisanat est en train de monter. Donc, on essaie de créer un nouveau modèle économique et de mettre en place la valorisation des personnes qui travaillent la terre.
Savoir ouvrir les yeux. En même temps, quand on respire, quand on boit de l'huile d'olive au quotidien et que ça fait partie de son alimentation de base, quand je parle de la respiration, on oublie que respirer, c'est important quand on a la possibilité de respirer tout le temps. Alors justement, avant de faire une pause, Evangelia, racontez-moi, quand vous êtes arrivée ici, quel a été le problème auquel vous avez été confrontée en termes d'approvisionnement
Oui, alors effectivement, donc moi j'arrive 18 ans en tant qu'étudiante et quand j'ai voulu acheter de l'huile pour faire la cuisine à la maison, je ne pouvais pas, c'était impossible de manger cette cuisine. J'étais pas la seule, avec d'autres filles grecques. Et puis, la prochaine fois que j'ai pu aller en Grèce, je suis repartie avec un bidon d'huile. Et depuis, c'était tout le temps comme ça. À chaque fois que j'avais l'occasion d'aller en Grèce, pour les vacances, par exemple, je prenais au moins un bidon d'huile.
Au moins. Et ça a été le début de toute une aventure.
Voilà.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα, χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει. Χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάση. Η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μας έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Kurosivo de Tano Mikrotsikou. C'est un album d'Ostavros Tounotou. Alors c'est notre invitée Evangelia Rally qui a choisi cette chanson très belle, issue d'un poème de Nikou Kavadia.
Nikou Kavadia.
Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle veut dire déjà? Parce que nous, pauvres francophones, on ne sait pas.
En fait, Nikou Kavadia, c'était un marin. Et il a décrit dans les années 50-60 la vie de marin par tous les continents en fait, parce qu'ils allaient partout. Et c'était une vie très dure. Et lui, il arrivait à trouver les mots qui étaient, c'était des mots aussi du monde des marins qu'il utilise, mais où à l'intérieur, il y a quand même une solidarité qu'on voit entre les marins. Et quand je l'avais écouté pour la première fois, qui m'avait vraiment touchée. Et aussi, c'est un personnage, Nikos Kavadias, qui était homosexuel. Et à une époque en Grèce où c'était dramatique d'être homosexuel, donc dans les années 50 et 60. Et c'est à travers ses poèmes, à travers sa vie, parce qu'il a osé le dire, comme d'autres musiciens très connus en Grèce de cette époque-là. Et j'adore Thanos Mikroutsikos, qui lui, il a mis en musique le poème. C'est un compositeur exceptionnel. Et voilà, je pensais que ça pourrait être bien
Mais je pense que c'est très bien. Merci beaucoup pour ce choix. On mettra évidemment les références du disque, de l'album et du poète sur la page du Goût du Monde. Alors, vous êtes venu avec votre fils, juste pour que si vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, bien sûr, c'est le Goût du Monde. Vous entendiez la maman d'Alexandre Australis, qui est à côté de nous, et nous parlions des olives. Vous vouliez dire, Alexandre?
Non, non, c'était aussi un hommage au papa de maman, qui était lui-même aussi marin, qui était mon grand-père, que j'ai jamais connu, qui est décédé en 74, et qui était quelqu'un de très cultivé, qui était quelqu'un de, apparemment, qui a beaucoup compté, donc il y avait une légende familiale aussi très très belle.
J'aimerais que vous puissiez voir les regards que s'échangent la mère et le fils. En tout cas, on a vécu un petit peu de récolte des olives. Est-ce qu'on a les mains teintes?
Ah oui, oui, en fin de journée, on a les mains teintes avec les olives qu'on a triées, en fait, sur le trieur, qu'on a touché. On a des odeurs aussi. On a des morceaux de feuilles dans les cheveux. Enfin, on sort, ouais, d'un champ de bataille. C'est-à-dire que c'est ça qui est joli, quoi. Quand on presse, justement, ces olives, on peut avoir les goûts qui, les odeurs, en fait, puissance olfactive qui commencent à sortir. Quand on plonge les mains dans le sac, c'est situations qui sont très jolies, il y a beaucoup de sens, tous les sens sont éveillés de toute façon, donc là on est au maximum quelque part des pulsions de vie en fait dans un champ d'olivier au travail. Quoi.
On est dans du vivant et du vivant. Vous avez emmené votre fils récolter les olives?
Pas
déjà
encore, mais ça serait très très beau que ça soit cette année qu'on puisse le faire, parce que c'est vrai que là on développe à partir de 4 ans, 5 ans, les premiers souvenirs, les premières images, elles sont grandes, les premières images, quelque part, parce que c'est elles qui vous guident pour toute la vie. Donc, effectivement, je pense que c'est l'heure qu'il vienne travailler au champ. Je pense qu'il sera très content. Mais il les a quelque part, parce que c'est sa grand-mère qui l'a amené au champ à partir de 2 ans, 2-3 ans. Mais maintenant, je pense qu'il a la capacité de regarder.
Et là, il a 5 ans presque, donc.
Alors, quel poste il ferait, justement, autour de cet olivier? Ce serait quoi son rôle?
Ben, écoutez, actuellement, donc, je travaille avec une équipe d'agriculteurs en Grèce, qui amènent leurs enfants. Il y en a un qui a 5 ans, comme on aurait, et l'autre qui a 1 an. Ils sont dans les champs avec nous. Et donc, j'ai vu que le petit, celui qui a 5 ans, eh ben, il est très bon pour les pierres. Parce que dans un champ d'olivier en terrasse, il faut toujours bouger les pierres. Parce que les pierres tombent des murets et il faut les amener au pied du muret qui est au-dessus. Et donc ça, en enfant, c'est génial parce qu'il adore courir et puis prendre les pierres au lieu de les jeter vers l'aval. Donc, on va lui donner comme consigne de les amener au pied du mur.
D'accord. Donc là, nous sommes à Kalamata, au sud-ouest du Péloponnèse, en Grèce. Et on est pas mal, je trouve. Alors, il a fallu, pour votre survie en France, Evangelia, rapporter de l'huile. Quelle est la place de l'huile d'olive en Grèce?
Elle est fondamentale. C'est-à-dire que sans huile d'olive, pas de cuisine grecque. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est la respiration de la cuisine. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va amener, tout va être à base d'huile d'olive. Pour donner quelques chiffres quand même, en Grèce, on est à 20-25 litres par personne et par an. Dans la région de Kalamata, on est autour de 40 litres par personne et par an. C'est-à-dire que c'est dans les veines, quoi, l'huile d'olive. Alors qu'en France, on est à 1,7. Pour une famille grecque, l'huile d'olive, elle est indispensable à la cuisine. Mais comme elle l'est la feta, comme l'origan, comme les d'autres produits en fait essentiels à la cuisine, parce que sans ça, il y a impossibilité
de faire
la cuisine.
On a des triomes, des triptyques, on va avoir du pain, de l'huile, du fromage. Comment est-ce qu'elle accompagne dans son quotidien? Le matin, on se réveille, on va déjà avoir de l'huile d'olive. Est-ce que toute la journée, comme ça, elle va nous accompagner, cette huile?
Dans les familles traditionnelles, c'est vers les goûters que ça commence. Quand on s'arrête, par exemple, donc pour faire une petite pause vers 10h, 10h30, donc là, l'huile apparaît effectivement avec du pain, une tomate, du fromage, qui souvent c'est la feta. Et puis après, pendant le repas, probablement le soir, avec une salade. Donc effectivement, l'huile est partout. Et juste pour vous dire, donc, quand moi j'ai fait un plat en légumes, le même plat, si c'est une copine française qui le fait, la seule chose qui va changer, c'est qu'elle met beaucoup moins d'olives. Eh bien, ce n'est pas du tout le même goût.
Ah ben ouais. On en met beaucoup.
Effectivement.
Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est pour qui n'a jamais goûté l'huile d'olive, qui est plutôt habituée à des huiles d'arachide, de tournesol, enfin même d'autres huiles. Comment définiriez-vous, en sachant évidemment que l'huile que vous avez, vous, est récoltée, donc on va goûter à un moment précis dans l'année, donc le goût va changer. Mais quelqu'un qui n'aurait jamais goûté?
Alors, je pense que l'huile d'olive, telle qu'elle est, quand elle sort, en fait, de la presse, c'est comme un premier baiser langoureux. C'est-à-dire que il y a une puissance, il y a une aromatique, il y a une longueur en bouche, il y a un côté d'herbe verte, des premiers souvenirs justement qu'on évoquait quand on marche dans l'herbe, qu'elle va être fraîchement coupée. Il y a des sens en fait qui se développent et qui sont absolument merveilleux. Et encore plus quand c'est l'huile d'olive de son travail, qu'on a travaillé et sué toute la journée et qu'on voit en fait le fruit de son travail venir directement arriver en fait et être pressé et sortir et juste avoir la goûter sur un morceau de pain chaud. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire, qui est très vivant encore une nouvelle fois, et vraiment avec ce goût d'herbe, vraiment de ce côté vert, quoi.
Ouais, c'est très frais, parce que d'emblée, on n'associerait pas forcément huile et fraîcheur, et pourtant, ce sont vraiment deux termes associés. Donc, il y a eu deux étapes. Donc, vous avez commencé par apporter de l'huile pour votre survie, entre guillemets. Et votre fils a grandi. Vous êtes allé, vous nous l'avez dit au tout début de cette émission, chaque été, passer du temps auprès de votre grand-mère. Et donc, grandir comme ça, et avec cette culture et ces racines qu'on grandit en même temps, comme si vous étiez un olivier. Et comment vous avez ensuite, vous êtes passé donc de celui qui a rapporté de l'huile aussi, puis qui a commencé à la proposer.
Voilà, à la commercialiser en fait, avec dans l'idée de trouver un public en fait de connaisseurs, c'est-à-dire la gastronomie, c'est-à-dire le faire sortir en fait l'huile d'olive grecque d'un circuit classique de cuisine grecque et de l'amener en fait dans une cuisine gastronomique française avec des chefs comme Bruno Verjus, Inaki Espitarte, des grands chefs parisiens qui m'ont dit ça c'est un trésor, c'est vraiment un travail fabuleux que tu fais, que tu ramènes, il faut que tu le développes et faut surtout que tu ailles chercher d'autres produits. L'huile d'olive, ce qui est intéressant sur le travail qu'on fait, c'est que c'est un travail parcellaire en fait, c'est-à-dire que en fait on utilise des parcelles agricoles, on les met directement en bidon, on les filtre pas, donc du coup on a une huile d'olive qui va avoir une identité et un goût. C'est-à-dire que souvent les huiles d'olive que vous allez retrouver dans le commerce ou dans le marché sont des huiles d'olive qu'on appelle de blend, c'est-à-dire de mélange. Donc il y a des mélanges qui peuvent être très bien faits. Le moulin avec lequel on travaille fait des très très bons mélanges puisque la qualité des huiles est excellente. Mais plus ça va aller et plus ça peut être catastrophique. Donc sachez que les huiles d'olive qui sont très généralement en grande surface où c'est écrit pays de l'Union européenne derrière sur la provenance, c'est des huiles qui sont catastrophiques puisqu'elles sont coupées, archi-coupées.
Et mélangées.
Et mélangées avec d'autres huiles, avec des huiles d'années différentes, avec plein de choses. Donc nous, on a pris tout le sens inverse.
Vous avez voulu donner de l'or vert.
Voilà, ça, on a voulu aller vraiment chercher l'or. On a voulu chercher la question d'un travail de joaillerie presque. C'est-à-dire d'avoir justement, quand une parcelle est finie, elle est finie. C'est-à-dire qu'il faudra attendre l'année prochaine pour la revoir. C'est-à-dire que jouer aussi sur les différents sols, voir les différences de goût. C'est-à-dire que une huile d'olive qui est sur la plaine de Kalamata n'a pas du tout le même goût que l'huile d'olive qui est au pied de la montagne ou sur des sols où il y a de la pierre, où il y a de la terre rouge, des apports en fer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que l'huile d'olive est un terroir quelque part. Et souvent, comme c'est un produit qui est tout le temps mélangé, eh ben, on avait oublié cette notion de terroir. En Grèce, on l'a réintroduit par ce travail.
Et c'est pour ça qu'on rapproche souvent en fait le travail autour de l'huile d'olive avec la vinification. Est-ce qu'il y a des vignes dans les oliveraies à Kalamata?
Oui, il y a chez moi par exemple, il y a une vigne sauvage qui pousse, mais le mélange ne se fait pas parce que la vigne elle a besoin de toute la lumière et vous pouvez pas mettre olivier et vigne en même temps. C'est pas possible. C'est raison historique en fait, tout simplement. C'est que avant de mettre les oliviers, il y avait des parcelles qui étaient en vigne, dans les années 50, par exemple. Et après, il y a eu une maladie, c'est la fameuse phylloxéra, ce qui fait que dans les années 60-70, l'État grec il a dit, vous enlevez vos vignes, je vous donne de l'argent donc pour les aider, et vous mettez des oliviers. Ça, c'était dans certaines parcelles. Alors, dans le Magne, je ne sais pas du tout si c'était comme ça ou pas.
Le Magne, c'est plus au sud.
Dès qu'on sort de Kalamata, en fait, dans le virage de Kalamata, c'est la région du Magne. Cette région, le doigt central du sud Péloponnèse, qui est une région fabuleuse dont vous avez
eu... Bruno Verjus nous a parlé.
Est tombé
avec vous.
amoureux et qui crée une passion qui est folle. Et pour la vigne, je suis sûr, enfin, moi, ce que j'avais entendu, c'est que justement, les Magnates, qui étaient des personnes qui est descendants des Spartiates, n'aimaient pas du tout cette idée d'ivresse et n'aimaient pas du tout la culture du vin. Et du coup, étaient contre, justement, cette culture du vin qui amenait l'ivresse, qui amenait la poésie, qui amenait la contemplation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de culturel encore plus...
Oui, par contre, dans les années 40, quand on regarde les photos aériennes, on voit que les parcelles que actuellement sont en olivier, c'était avec des figuiers. Et aussi, il faut pas oublier que c'était utilisé aussi pour mettre du blé. C'est-à-dire que l'agriculture était complètement différente d'aujourd'hui.
Ce qui explique aussi que dans les assiettes, on retrouvait du pain, des pâtes, avec l'huile d'olive, un peu de vin.
C'est ça.
C'est vraiment les trois ingrédients de la gastronomie de l'assiette depuis l'Antiquité, depuis
Méditerranée,
toujours.
De la Méditerranée, quelque part. Oui, c'est ça. Oui.
Faut pas oublier les figues. Hein. C'est les très figues. Important, les figues.
Ni même les légumineuses qui poussent dans votre livret, chère Evangelia, je crois.
Oui. Alors, les légumineuses... Elles poussent de façon naturelle, puisque moi, mon objectif, c'est de faire de l'agroécologie. C'est-à-dire, mon objectif, c'est d'utiliser, c'est ce que les autres appellent des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes, de les utiliser pour récupérer mes sols, qui étaient un peu abîmés, et c'est beaucoup de graminées aussi, des graminées sauvages. Et les deux, en fait, ils s'associent, les graminées plus les légumineuses, et ils font un travail... mais fantastique du point de vue scientifique, puisqu'ils sensent complètement l'environnement du sol, ce qui fait que l'olivier, il peut accéder à sa nourriture, donc à l'azote.
Plonger ses racines très profondément.
Et oui, parce qu'elle peut accéder à cause de ces plantes-là.
La nature est bien faite, je crois. Alexandros.
Alors, petite parenthèse, ce que maman ne vous a pas dit, c'est que pendant des années, elle a été ingénieure en environnement, spécialiste des sols et des rivières en France. Et du coup, elle donnait des conseils aux mairies pour faire. Et je pense que la question de l'oliveraie, c'est vrai que c'est fabuleux ce qu'elle a réussi à faire, parce qu'elle a redonné vie à un lieu, des oliveraies, quand je les ai vues pour la première fois, une grande parcelle qui était très triste, vraiment. On voyait un sol qui était complètement mort, on voyait un sol qui était plein de pesticides. Et en quelques années, en mettant en place ses convictions, son travail, on a vu de manière impressionnante un changement complet au niveau de la vitalité des sols, du lieu. C'est-à-dire que là, on a pu ramasser des asperges sauvages. On voit une vitalité qui se crée sur les arbres, sur la faune, sur la flore, plein de choses. Et c'est vrai que c'est dingue de voir justement tout ce travail-là.
Cette renaissance
qui est longue quelque part, parce que justement, on passe par plusieurs étapes, on se trompe quelquefois, souvent, mais on voit que le travail qu'on fait donne sens. Et je pense que vraiment, pendant longtemps, elle était justement dans cette idée de conseil. Elle a aussi très longtemps été militante politique, associative. Et arrivée à un certain âge, elle s'est mise à appliquer quelque part ses conseils sur un endroit.
C'est un laboratoire, entre guillemets, en grandeur nature. Ce qui est intéressant, Alexandro, c'est que vous êtes un laboratoire aussi, parce que le goût des bonnes choses et le goût du vivant, je crois que vous l'avez hérité de quelqu'un, il me semblerait.
Ah bon?
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Este camino pasa tu mente. Que mostrado es camino long. Que mostrado es camino long. Este camino pasa tu mente. Saudade desde a terra sanitária. Σταμάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά.
Soda, Césaria Évora et Eleftheria Aravani, Taki, Grèce et Cap-Vert, donc réunis ensemble dans cette chanson. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes dans les oliveraies grecques, la mer au loin avec Alexandros Rallis et sa mère Evangelia Rallis, grec et passeur de culture. Alexandros, fondateur de cet îlot de bonheur, j'ai envie de dire, qui surplombe Paris, qui s'appelle Profil Grec dans le 20e arrondissement, porte ouverte sur Kalamata, ses artisans, l'huile d'olive qui pense les mots et les douceurs aussi de la vie. Evangelia, vous voulez dire quelque chose avant qu'on écoute Césaria Evora? Je vous écoute.
Oui, c'était par rapport à l'agroécologie. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis allée faire une petite formation d'oléiculteur à Saint-Rémy-en-Provence. Donc, quand on a commencé, on nous a demandé quel était notre objectif par rapport à l'oléiculture. Et donc, moi, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, moi, je veux voir des fleurs dans mon oliveraie. Et ça, ça dit tout, parce que donc, au bout de presque 4 ans que cet oliveraie n'a pas été traité, il n'y a pas eu des engrais synthétiques. Il se trouve que j'étais en Grèce pendant les 2 confinements, donc j'étais confinée dans les oliviers. Et je me suis amusée de faire un relevé des espèces que nous avons dans cette parcelle. Il y aurait dans les 150 espèces donc différentes au mois d'avril, dont une 50aine de légumineuses. Et toutes ces espèces, elles ont des fleurs, bien sûr. Et c'est magnifique de voir tous ces insectes, toute cette vie, toutes ces araignées qui font un travail exceptionnel. Et donc, voilà ce que j'avais dit. Moi, je veux voir les fleurs que je voyais quand j'avais 10 ans.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'en l'espace de finalement un peu de temps, puisque cette parcelle, vous en êtes porté acquéreur en...
Ça fait 4 ans.
Enfin, 4 ans pour revenir à la vie. Donc, c'est possible, surtout.
Oui,
c'est la preuve que quand on prête attention, quand on pense les sols, P-A-N-S-E, on peut les rétablir complètement. Vous pressez votre huile, l'huile de la parcelle.
Oui, bien sûr. Donc, il faut amener les olives les jours même de la récolte. Donc, il faut faire très vite. Et je vais à l'huilerie qui se trouve à 15 km de la parcelle. Donc, l'huilerie vient chercher les sacs. Et donc, nous, on suit derrière pour être sûr que c'est nos sacs qui sont utilisés.
Ne s'égare pas.
Surtout, voilà.
Ouais, c'est... bien sûr. Vous l'avez goûté, bien sûr, Alexandros, l'huile d'olive de votre mère.
Ouais.
Qu'est-ce que ça donne?
Alors, maman récolte très, très tôt, généralement début novembre. Donc, ça donne des huiles d'olive qui sont très portées sur les amers, sur une puissance très, très forte. On va dire que c'est les toprotor, là, qui est vraiment, c'est des huiles qui sont un peu sur l'astringence, un peu vraiment sur un côté très, très, très fort, que nous, on travaille différemment, c'est-à-dire qu'on récolte un petit peu plus tard.
On n'a pas dit l'olive, c'est la...
L'olive, c'est la Koroneiki, qui est une variété endémique de la région de Messénie et qui s'est beaucoup développée aussi en Crète et qui est l'une des variétés les plus utilisées en Grèce, qui est une variété très intéressante parce qu'elle offre un équilibre, justement. Donc nous, pour avoir vraiment ce côté d'équilibre, cette huile qui ne va pas trop partir sur les amers et qui va être... On la récolte un mois plus tard et du coup, ça permet d'avoir en fait d'autres goûts. Mais on est sur les mêmes types, vraiment, de goût, de toute façon.
Il faut savoir qu'au niveau des goûts et des parfums et des odeurs, la nature du sol joue beaucoup. Alexandros, il travaille beaucoup avec des parcelles pierreuses aussi. Donc, des sols complètement différents, très secs. Tandis que ma parcelle, elle est plutôt grasse. J'ai plutôt donc des limons.
Ce qui est extraordinaire en Grèce, c'est que tout le monde pense faire la meilleure huile d'olive du monde, ce qui l'est, parce que la fierté du travail accompli, mais il faut avoir aussi un recul et se dire que il y a des huiles d'olive par rapport à leur sol, par rapport à leur région. C'est-à-dire, pareil, il ne faut pas réfléchir l'huile d'olive en termes d'huile d'olive grecque, c'est complètement débile. C'est-à-dire que, par exemple, l'huile d'olive italienne, ça n'existe pas. Il y a l'huile d'olive de Sicile, l'huile d'olive de Ligurie, l'huile d'olive des Pouilles. Là, quelque chose me parle, là, c'est intéressant. Et après, il y a des producteurs qui vont travailler différemment. L'huile d'olive, nous, ça va être la région du Magne. Il va avoir un sol qui est spécial, il y a une façon de travailler qui est spéciale. C'est-à-dire que de toujours réfléchir, non pas en termes de pays, mais en termes de région et de terroir. Ça qui est beaucoup plus important et qui fait qu'en sorte, on peut avoir justement des huiles d'olive très différentes. Et après, il ne faut surtout pas dire moins bonnes, mais différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement ni de meilleure huile. C'est complètement débile de réfléchir de cette manière parce qu'on n'est pas sur un classement, on est sur des différences de goût, on est sur des différences empiriques en plus, qui sont justement peut-être une année, ben, on sera trompé, ben, c'est pas grave, on va réessayer l'année prochaine. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très important. Et autant, il faut être fidèle avec les femmes, il faut être infidèle avec le livre. C'est-à-dire qu'il faut en goûter plein et voir justement les goûts différents. Donc, ça, c'est ce qu'on me dit quand il y a quelqu'un qui me dit j'ai été infidèle avec Joséphine, tu as eu raison d'être infidèle.
Le paysage, il peut être différent à 200 mètres à vol d'oiseau. C'est-à-dire que vous avez une faille, un ravin, en fait, souvent. Donc, moi, je suis sur le ravin de gauche, donc j'ai des sols plutôt profonds. Et sur le ravin en face, c'est des sols avec plein de pierres. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement différent, mais c'est juste à côté.
C'est extraordinaire. Ça, c'est absolument fabuleux. C'est unique, hein, vraiment, pour le coup, en m'étant beaucoup baladé dans des régions où il y a des oliviers. Vraiment, cette veine qui passe, qui est une veine avec énormément de pierres, et quelque chose d'unique que je n'ai jamais retrouvé, que je suis tout le temps en train quand même de chercher pour essayer de voir, parce que généralement il y a quand même une unité de sol, et c'est vrai que là-bas tu as un endroit qui a un terroir mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'on même on se pose la question comment l'olivier arrive à pousser,
oui, à pousser au milieu dans le magne. Le vrai magne. Voilà, moi je suis juste à 200 mètres.
À la lisière.
Non, mais juste au milieu de ces pierres, il y a des pierres qui font la taille du studio, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont posées là, qu'on ne sait pas ce qu'elles font là, quoi. C'est-à-dire qu'on se demande qui les a posées là. Et on a, au milieu, comme la petite chaise, là, ici, un olivier qui pousse. Alors là, on se pose vraiment encore plus la question, comment il a réussi à pousser. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'aussi l'olivier, plus le sol sera compliqué et plus il donnera en termes de texture, de jus de parfum. C'est-à-dire que plus il est dans la difficulté, dans la lutte, et plus quelque part le goût en sera intense. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être quelque chose aussi d'humain, enfin à comparer avec l'humanité.
Aussi. On est près de la mer. C'est vous qui l'avez choisi, ce morceau, Alexandros.
Ce morceau d'Eleni Kareindrou pour le film L'éternité un jour de Théo Angelopoulos, Palme d'Or en 98, qui est un film, rien qu'en y pensant, qui donne une émotion très très forte, qui sont les souvenirs d'un homme au seuil de sa vie, en fait, qui se souvient des jours heureux de son enfance et d'un jour en particulier où il s'est aimé avec sa femme. C'est vraiment un film extraordinaire et qui... L'émotion transperce dans la musique aussi, et c'est quelque chose de très joli.
Ce qui est très embêtant, en revanche, c'est que cette émission arrive déjà à sa fin. Et cependant, nous allons prendre le temps de parler de la feta. Parce que la feta, telle qu'on la connaît ici en France, en tout cas, c'est un fromage qu'on mixe avec d'autres choses et qui apporte un goût, du sel, mais qu'on connaît mal.
Non, mais qu'on connaît même pas du tout. C'est un fromage qui a été complètement pris dans des processus d'industrialisation et qui va en Grèce et qui goûte la feta originelle faite par un artisan, avec quelqu'un qui travaille ce lait de brebis et mixé avec un petit peu de lait de chèvre. On se rend compte qu'il y a un goût, que c'est même pas un fromage, c'est un condiment, c'est quelque chose qui va amener à chaque fois sur des légumineuses, sur des plein de plats grecs, qui va accompagner et qui va être quelque part comme un sel, un poivre, c'est-à-dire un origan. Enfin, il faut quitter la notion de fromage déjà sur la feta, il faut en parler comme un ingrédient. Ou peut-être...
Un ingrédient du repas, en fait, qu'on peut
amener. Et aujourd'hui, quelque part, avec l'artisan avec lequel on travaille et qu'on a exporté, on a pu faire découvrir justement un public parisien, en France aussi, ou même à la gastronomie française, qu'est la vraie feta. Et alors, ce qui est toujours très intéressant, c'est que la feta en Grèce est utilisée de manière donc très basique, comme un condiment. Alors, elle est toujours posée avec un bloc au milieu de la table où on va servir et couper des espèces de tranches énormes pour le mettre avec une soupe de haricots, pour le mettre avec des bamies, qui sont des, qu'on appelle les gombos, qui ça va amener la part de sel. Et alors, en France, ce qui est super, c'est d'amener un produit quelque part de base comme ça, qui est utilisé de manière, on va dire, ancestrale, quelque part dans une table grecque, et de l'amener dans un pays où l'imaginaire gastronomique va s'en emparer comme en France et va créer plein de choses autour de ce produit, va le sublimer, va multiplier l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui l'ont congelé, qui l'ont râpé sur des petits pois. Il y en a d'autres qui ont utilisé la saumure qu'on jette normalement pour le mettre dans un tartare de veau. Il y en a qui vont le griller, il y en a d'autres qui vont faire tout un tas de choses. Et c'est aussi la beauté de ces produits d'artisans qui sont quelque part ancestraux, mais en voyageant, en fait, s'adaptent, se transforment, sont réutilisés, sont réinventés. Quelque part, la culture, comme les produits, doivent aussi voyager pour être,
se
mélanger, se réinventer.
S'adapter.
Et voilà.
Je vais vous demander, parce que c'est dans la tradition, dans le goût du monde, de partager avec nous un ingrédient et un ustensile. Honneur à la mère, Evangelia.
Donc, moi, je vais vous parler de mon sécateur. Parce que je me suis mise à tailler, donc surtout après mon stage à Saint-Rémy en Provence où on a appris la taille des oliviers. Et donc ce sécateur qui est un sécateur électrique, pour moi c'est vraiment l'outil que j'ai tout le temps avec moi quand je suis dans l'olivier.
À vous pour l'ustensile.
À moi l'ustensile, je vais vous surprendre, mais ça sera une Vespa, c'est-à-dire une petite moto. Parce que j'ai le souvenir, en fait, quand j'étais allé en Grèce, il y a maintenant 13-14 ans, quand j'avais pris la route entre Kalamata et aller pour la première fois au moulinier pour lui parler de mon projet d'huile d'olive. Et je me rappelle d'un espèce de moment de liberté. Alors là, c'était sans casque, avec une toute petite moto que j'avais achetée. Et c'est un moment qui est très joli, qui restera gravé. Et surtout, au début, quand j'ai commencé à Paris, je mettais les bidons d'huile derrière la Vespa. Et puis, on allait livrer chez les chefs parisiens.
Vous gardez la main pour l'ingrédient ?
L'ingrédient, pour le coup, alors là, ça sera cette fameuse infusion de thé des montagnes qui est pareil. Alors là, on a fait la marche, c'est-à-dire qu'il a fallu monter tout en haut de la montagne avec des personnes, pareil, qui reconvertissent, qui commencent à travailler justement ces herbes qui sont des herbes sauvages, mais qui les mettent en valeur. Et justement, c'est là où on a l'espoir, en fait, que des ingénieurs en Grèce, que des gens qui étaient pris dans d'autres métiers, se rendent compte de la richesse de la terre et commencent à la travailler pour développer quelque part un commerce qui soit vertueux envers la terre et envers les hommes, c'est-à-dire d'avoir un changement quelque part de société, de pas être seulement diviré sur des métiers de service, mais sur des métiers de production, mais de production de très haute qualité.
Evangelia, le mot de la fin pour vous.
Moi, ce que je voulais dire par rapport à la culture des oliviers, c'est que c'est très lié avec donc la production de la feta et d'autres fromages à base de brebis et de chèvres, parce qu'il faut savoir que ces animaux, c'est grâce à eux que nous avons en Grèce actuellement des montagnes avec une richesse exceptionnelle de flore, et que nous avons au niveau européen, nous sommes vraiment le pays où il y a le plus de sites Natura 2000, donc des sites très préservés. Le fait de pâturer en fait, sous les oliviers ou la garrigue, ça fait que la Grèce, elle est encore belle. Et on a un avantage par rapport à la France, c'est parce que la Grèce, elle a 40 ans de retard en agriculture par rapport à ce qui se passe en France. Donc, c'est génial parce qu'on n'a pas tout encore, on va dire, abîmé. Donc, maintenant, tout change, ça va vers le mieux. Donc, au moins, la Grèce, elle a ça comme avantage.
Et en créant des cercles vertueux, justement, de personnes, et en défendant ces artisans par le commerce de leurs produits à l'échelle européenne, on permet justement à tout un cercle de vivre. Et c'est ça qui est, je pense, fondamental et qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir en Grèce.
Moi, j'aurais voulu faire paître les moutons, mais les moutons grecs, ils sont très hauts. Et donc, j'ai pensé aux moutons d'Ouessant. Ils sont
en Bretagne,
tout petits.
Ça ferait une belle collaboration.
Mais oui.
Mais absolument.
Et donc là, je vais essayer de réfléchir comment je vais faire.
Sinon, maman, elle avait des chevaux aussi. C'était magnifique qui étaient dans ses oliviers, avec des petits poulains qui passaient aussi entre les parcelles.
Ça durait un an, mais c'était exceptionnel.
Écoutez, ouais. Le goût du monde se referme. Merci infiniment à vous deux, Evangelia Alexandros, pour ce partage. Profil grec est au 7 de la rue Savis, c'est comme ça qu'on prononce.
Savis, qui était le nom de Belleville, en fait, juste avant. Et on est à la source, en fait, de Paris, la rue des fameuses rues des Cascades et rue de la Mare. Et Savis, c'était Belleville, en fait, c'est les sources de Paris, venaient de là. Donc on arrose maintenant aujourd'hui Paris en huile d'olive et en plein de produits grecs.
Et Casque d'Or était juste à côté.
Bien sûr.
Donc on a toute une belle histoire. On mettra sur la page du Goût du Monde, évidemment, les liens pour vous trouver, l'un et l'autre, pour vous suivre. Vous nous donnerez des nouvelles quand les moutons arrivent de Sinon, on vous aide. Y a-t-il un aliment dans votre vie, un ingrédient dont vous ne pourriez pas vous passer, un peu comme l'huile d'olive et les Grecs. Racontez-nous. Je vous donne le numéro WhatsApp de l'émission sur lequel vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages vidéo. 33 6 43 16 15 66. Cécile Bonifier a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité. Belle semaine à tous. À samedi prochain.